Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chacun de nos invités chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, Chine, bruit à l'ouest, attaque à l'est. Le sixième adage du traité chinois des 36 stratagèmes conseille aux chefs de guerre de faire du bruit à l'est et d'attaquer à l'ouest, une façon de surprendre son adversaire. Il semble que le pouvoir chinois, préoccupé depuis de longs mois par la situation à Taïwan et à Hong Kong, ait choisi de faire l'inverse, tandis que les puissances occidentales s'écharpent sur la puissance accrue supposée de la Chine à la sortie de la crise du coronavirus. Xi Jinping a choisi de frapper un grand coup à Hong Kong en proposant une loi sur la sécurité nationale dont les militants pro-démocratie imaginent, ils ne la connaissent pas encore, qu'elle empêchera manifestations et protestations de reprendre. Aujourd'hui même, le Parlement hongkongais a approuvé un texte criminalisant l'outrage à l'hymne de la Chine communiste, tandis que nombre de Hongkongais craignent que ces manœuvres ne préludent à une vague de répression politique. La présidente taïwanaise, elle, qui a fort bien géré la crise du Covid dans son pays, ferraille toujours pour maintenir son autonomie face à Pékin. Bref, en cette veille de commémoration de la répression de la place Tiananmen, c'est aujourd'hui donc le pouvoir chinois donc offre au monde sa vision du slogan « Un pays, deux systèmes ». Nous allons en débattre avec nos invités. Stéphanie Balm, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure et directrice de recherche à Sciences Po au CERI et vous travaillez actuellement sur la place des sciences, des technologies et de l'innovation en Chine. Sébastien Weg, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, vous êtes spécialiste de l'histoire de Hong Kong et professeur honoraire d'ailleurs à l'université même de Hong Kong. Et nous attendons d'une minute à l'autre, on l'espère en tous les cas, M. Lun Zhang qui est professeur d'études chinoises à l'université de Cergy Paris. Commençons avec vous, Sébastien Weg, vous êtes donc spécialiste de Hong Kong et Hong Kong est...
Spécialiste de l'histoire de la Chine au XXe siècle.
Voilà,
Hong Kong, c'est venu un petit peu plus tardivement et je peux vous expliquer le lien, mais je vous en prie.
C'est très bien. Donc justement, en tant qu'historien, cette histoire de Hong Kong est au cœur de l'actualité d'aujourd'hui, mais dans un moment évidemment qui est lié aussi à l'histoire de la Chine contemporaine, en particulier avec le 31e anniversaire de Tiananmen, puisque évidemment, ce qui se passe aujourd'hui à Hong Kong est marqué par cet anniversaire. On ne peut pas manifester, c'est ce qui a été dit dans le journal tout à l'heure de Benoît Bouscarel, on ne peut pas manifester, mais néanmoins, les pro-démocraties manifestent tout de même leur soutien à ce mouvement de Tiananmen 31 ans plus tard, et c'est une des raisons, disons, de la tension entre le gouvernement de Hong Kong, très proche de Pékin, voire dans la main de Pékin et les pro-démocraties à Hong Kong.
Oui, donc effectivement, à Hong Kong, on commémore, c'est le seul endroit sur le sol chinois où on commémore le massacre du 4 juin, la répression du mouvement démocratique de 1989, qui joue un rôle très important pour Hong Kong puisqu'il a eu lieu 8 ans avant la rétrocession. Il a largement influencé les conditions dans lesquelles s'est passée la rétrocession elle-même. Mmh. Et effectivement... disons, pour Pékin, cette commémoration qui parfois a atteint 100 000, 200 000 personnes pour le 25e anniversaire reste quelque chose de très gênant. Donc là, aujourd'hui, c'est effectivement en principe la commémoration qui est une veillée avec des bougies qui a lieu généralement à 21h heure de Hong Kong, donc 15h à Paris. Mm-hmm. Elle était interdite pour raison donc de distanciation sociale parce que à Hong Kong, on n'est pas censé se réunir à plus de 8, mais dans les faits, les membres donc des différents groupes et les membres du public sont allés à Victoria Park comme tous les ans, et ils ont enlevé les barrières, ils se sont installés à 2 mètres de distance dans le parc, et ils ont quand même commémoré comme tous les ans, avec des bougies, le massacre du 4 juin.
Et ce jour n'est pas n'importe quel jour non plus, parce qu'effectivement on a appris il y a quelques jours, ça c'était aux alentours du 21-22 mai, on a appris donc l'intention de Pékin de mettre en place une loi donc de sécurité nationale pour le territoire de Hong Kong, loi qui fait craindre beaucoup de répression potentielle de la part des militants pro-démocratie à Hong Kong. Mais on a appris aussi aujourd'hui, par exemple, mais ça c'est une vieille histoire qui a été votée aujourd'hui par le Parlement de Hong Kong, qu'il y a un outrage à l'hymne chinois qui a été voté. C'était toujours en suspens et ça n'était pas encore décidé, et ça s'est voté aujourd'hui.
voix-là, elle est peut-être pas extrêmement significative. Alors bien sûr, c'est l'accumulation qui a créé beaucoup de tensions à Hong Kong. Le fait que cette loi-là, ce qui est intéressant, c'est la procédure en fait. La loi sur la sécurité nationale, c'est une obligation qui est inscrite dans les documents qui régissent la rétrocession. Donc l'article 23 de la loi fondamentale de Hong Kong. Elle devait être préparée à Hong Kong. Et le fait que les gouvernements successifs de Hong Kong n'ont pas réussi à faire voter cette loi depuis 1997 est certainement un des facteurs qui a poussé Pékin à agir de façon quand même assez inattendue et assez assez brutale. C'est-à-dire que ce qui a été annoncé fin mai, c'est que l'Assemblée nationale populaire, le Parlement chinois, a chargé son comité permanent de rédiger une loi qui serait inscrite dans une annexe de la loi fondamentale qui permet de la promulguer de façon directe à Hong Kong sans discussion au Conseil législatif de Hong Kong. Donc c'est qui est une procédure qui est vraiment, moi je dirais contraire, mais en tout cas je pense vraiment, c'est vraiment à l'extrême limite de ce qui est admissible dans les documents qui régissent la rétrocession. La loi sur l'hymne national, c'était une sorte de test, parce qu'elle aussi, elle a été inscrite à cette annexe, mais elle a été la procédure adoptée n'a pas été une simple publication de la loi telle quelle au journal officiel de Hong Kong, mais une discussion dans le Parlement hongkongais. Et cette discussion a duré 2 ans, parce que l'opposition, qui est en minorité de façon structurelle, parce que tous les sièges ne sont pas élus au suffrage universel direct, mais l'opposition contrôle quand même un certain nombre de sièges et peut bloquer les discussions, les débats parlementaires. Et ce blocage, en partie, a aussi contribué à pousser Pékin à utiliser des moyens pas tout à fait constitutionnels pour avancer leur propre idée de ce qu'est la sécurité nationale. Même si on connaît pas les détails, on a quand même les 4 domaines qui devraient être concernés. Et effectivement, ils suscitent l'inquiétude à Hong Kong. Donc la sédition, le terrorisme, le séparatisme et la collusion avec les forces étrangères. Donc effectivement, on s'imagine qu'il pourrait y avoir toutes sortes de tensions qui naîtront de ces chefs d'accusation quand ils entreront en conflit avec d'autres dispositions du droit hongkongais comme la liberté d'expression.
Monsieur Lun Zhang, vous êtes avec nous, vous êtes professeur d'études chinoises à l'université de Cergy, vous avez été vous-même sur la place Tiananmen il y a 31 ans maintenant. Ce moment est toujours un moment, j'imagine, de souvenir et un moment douloureux pour les gens qui ont participé à Tiananmen, mais aussi, justement, il est toujours observé de près dans l'effet qu'il peut faire sur le gouvernement chinois ces temps-ci. Est-ce que vous pensez justement que le fait qu'on a appris que les manifestants à Hong Kong continuaient à manifester malgré l'interdiction de manifester en raison de la Covid-19, est-ce que vous pensez que cela peut avoir un effet sur le gouvernement chinois, en tout cas de montrer la détermination des pro-démocraties à Hong Kong, qui a toujours été un soutien justement à ce mouvement de Tiananmen?
Merci pour votre invitation. Je suis assez loin de vous, donc j'essaie de faire mon mieux.
Nous sommes tous très loin les uns des autres, ne vous inquiétez pas, nous faisons de la radio de très très loin, c'est toujours le principe maintenant.
Pour l'instant, je suis à Harvard, en Boston, ça me donne une occasion de bien observer aussi ce monde, ce que se passe en Amérique. Voilà. Donc, reviens à votre question. Vous avez parfaitement raison de dire que depuis 30 ans de manifestations, de commémorations chaque année, portent un soutien symbolique très important pour le mouvement démocratique en Chine. Mais pour l'instant, je ne vois pas comment que le gouvernement chinois peut complètement empêcher les gens de Hong Kong de continuer manifester à ce point-là, mais je ne pense pas que maintenant la manifestation de commémoration à Hong Kong peut produire des effets importants pour changer, pour bouger le gouvernement chinois de changer quoi que ce soit.
Stéphanie Balme, vous êtes également avec nous, vous êtes professeure et directrice de recherche à Sciences Po, vous travaillez sur la place de la science, de la technologie et de l'innovation en Chine ces temps-ci. Monsieur Lunzhang est à Harvard. Ce que cela nous dit aussi, cette crise qui est en train de se redévelopper, pourrait-on dire, elle s'était interrompue, du moins aux yeux des médias, en raison de la Covid-19 et de la crise du coronavirus, cette crise qui est en train de se redévelopper remontre les tensions entre les pays occidentaux vis-à-vis de la position du gouvernement chinois et vis-à-vis de la défense des droits à Hong Kong.
Oui, enfin, je dirais que ce que ça nous amène en fait à réfléchir, c'est à la nature du système politique chinois. C'est-à-dire ce qu'on observe quand même, c'est la Chine affirme un projet politique à Hong Kong et un projet politique très clair, qu'elle indique que la prospérité économique, la stabilité politique, c'est ce dont a besoin la Chine pour affirmer son statut de puissance régionale. Et que pour l'instant, Hong Kong et Taïwan posent problème, sont des espèces de gros cailloux dans la chaussure de l'Empire chinois, et qu'en réalité, le modèle politique qui souhaite être affirmé, c'est celui d'un parti unique, qui est le Parti communiste chinois, d'une concentration des pouvoirs, d'une extrême personnalisation du pouvoir et d'une déconstitutionnalisation, d'une certaine manière, du droit chinois. Donc plus un modèle scientiste d'État, etc. Donc c'est ce qu'on voit et il est assez intéressant de voir qu'à Taïwan et en Corée en particulier des manifestations pro-hongkongaises et pro-démocratiques soutenant les démocrates chinois ont eu lieu également il est aussi intéressant de voir que dans le contexte de la Covid-19 les démocraties d'Asie ont plutôt bien géré ont plutôt bien joué le jeu. Alors ensuite, dans votre question, c'était « et le reste du monde ?» Comment le reste du monde voit cela, et en particulier les États-Unis et l'Europe. Ce qu'il faut aussi prendre quand même en considération, c'est l'agenda politique de ces deux pôles, à la fois européen et américain. Dans le cas américain, c'est assez clair, il y a des élections qui vont avoir lieu très bientôt. Exactement. Et par ailleurs, les relations entre la Chine et les États-Unis depuis le début de l'administration Trump ne sont pas exactement au beau fixe. Et probablement pas uniquement pour des questions liées à la démocratie, mais très probablement parce qu'on est face à un déclin américain d'un côté et une émergence d'une très grande puissance de l'autre. D'une certaine manière remplaçant, ayant pour but, ou en tout cas dans le forme de projet historique de remplacer l'autre. Il faut aussi imaginer que pour la Chine, on étant donc en 2020, on est 100 ans après un grand projet qui est le début du rêve chinois. Et donc on est aussi dans l'affirmation d'une forme de revanche par rapport à l'histoire qui était cette histoire heurtée de la guerre de l'opium et du début de la République chinoise. Donc côté américain, il y a évidemment une instrumentalisation de ce qui se passe à Hong Kong à des fins, j'allais dire, de relations bilatérales. Et côté européen, écoutez, on est frappé d'abord par une réaction qui est relativement timide quand même de la part de l'Europe. J'entends par l'Europe l'Union européenne.
Oui, parce que jusqu'à il y a quelques mois, on aurait pu dire qu'il y avait une réaction de la Grande-Bretagne, puissance européenne l'Europe, l'Union européenne. Maintenant qu'ils sont sortis, effectivement, ça n'est plus la même chose. Mais on a eu une réaction tout de même d'une puissance européenne, à savoir la Grande-Bretagne, avec la déclaration de Boris Johnson hier, par exemple, proposant des passeports diplomatiques en grand nombre pour les Hongkongais.
Ou une facilité, effectivement, d'obtention de visa pour les Hongkongais. Cela certainement va avoir un effet important pour les détenteurs de passeports britanniques ou bien de Hongkongais qui ont un droit de résidence au Royaume-Uni. Si on regarde à l'échelle plus importante qui est celle de l'Union européenne, moi je suis frappée du fait qu'en mars dernier, le service d'action extérieure de la Commission avait commencé à déployer une vraie stratégie à l'égard de la Chine en parlant de la Chine comme d'un rival systémique. Et aussi prépare en septembre une grande rencontre à Leipzig entre la Chine et l'Union européenne. Et dans ce contexte-là, ne semble pas réaliser l'importance politique immense que cela représente pour l'Europe, que cela représenterait pour l'Europe, d'affirmer un certain nombre de valeurs. Donc là, la déclaration que l'on connaît, c'est celle de Joseph Borrell, qui est le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères. Et qui a simplement indiqué, exprimé une, je crois me souvenir, le terme était profonde inquiétude indiquant que la situation à propos de Hong Kong, indiquant que cela risquait de compromettre sérieusement le principe d'un pays, deux systèmes dans le contexte chinois, ce qui est quand même une phrase plutôt minimale.
Sébastien Weg, est-ce que cette déclaration de son côté, pourrait-on dire, de Boris Johnson et de la Grande-Bretagne et de la diplomatie britannique a une importance, peut avoir une importance pour les pro-démocraties à Hong Kong, mais aussi pour la réaction qui a été immédiate d'ailleurs de la diplomatie de Pékin dans ce contexte tendu?
C'est effectivement assez compliqué. Alors juste pour compléter ce qu'a dit Stéphanie sur la déclaration de l'Union européenne, c'est plus, je dirais, c'est plus le ton que le contenu qui pose vraiment problème. La déclaration, bon, elle est pas très longue, la position officielle des 27, mais elle comporte quand même les éléments importants. Et il est quand même dit noir sur blanc que la manière dont la loi sur la sécurité nationale a été proposée est contraire à la déclaration conjointe sino-britannique, donc elle est en rupture avec le droit international, donc c'est quand même des éléments importants. Après, c'est vrai que l'Europe est confrontée à des entorses au droit international dans beaucoup de coins du monde, donc que ce soit dans les territoires occupés, on va pas faire la liste, mais donc disons la question c'est plutôt quelle attitude active est-ce que l'Europe peut prendre, et là bien sûr l'Europe est trop divisée parce qu'il y a des pays qui sont tout de même très proches de la Chine, donc bien sûr la Hongrie mais aussi d'autres. Donc le sommet de Leipzig est quand même a priori reporté sine die, officiellement pour raison de Covid, mais on se demande quand même s'il y a peut-être pas d'autres raisons derrière ça, et notamment l'attente de l'élection présidentielle européenne américaine. Voilà. Sur la Grande-Bretagne, oui, la proposition pour la résumer plus précisément, les Hongkongais, les résidents de Hong Kong, donc avant 1997, avaient la possibilité d'obtenir un passeport qui s'appelle un passeport BNO, donc de British
d'outre-mer.
Overseas, d'outre-mer, voilà. 300 000 en détiennent un et 2,9 millions auraient la possibilité d'en faire la demande en tout. Donc ce que propose Boris Johnson, c'est pour ces personnes-là, donc ce passeport ne donne pas droit à la résidence ordinaire en Grande-Bretagne, mais elle donne la possibilité d'obtenir des visas de travail de 6 mois. Donc Boris Johnson propose d'étendre ces visas à 1 an renouvelable, donc ce qui permettrait à terme, au bout de 5 ans, donc de faire une demande de
citoyenneté
britannique entière. Voilà. Donc il faut savoir que ça concerne potentiellement seulement les personnes nées avant 1997.
Ça peut être effectivement, Monsieur Lunzang, ça peut être important justement, mais ça peut être à double tranchant, comme toutes les décisions qui sont prises dans le domaine diplomatique. Pékin peut en tirer aussi profit. Ça peut être l'occasion de la fuite de certains cerveaux, de certains étudiants ou de certaines personnes qui sont, disons, en pleine fleur de l'âge et qui sont productifs à Hong Kong vers l'Europe, par exemple. Mais ça peut aussi être un moment difficile si ça accélère les mesures de rétorsion du gouvernement de Pékin sur les militants pro-démocratie.
Et vous avez parfaitement raison. Vous savez que depuis l'année dernière, au moment de manifestation à Hong Kong, j'ai rédigé plusieurs textes à ce propos. Dans tous les textes, j'ai noir blanc affirmé Hong Kong est mort. De toute manière, Pékin ne peut pas laisser Hong Kong dans cette situation-là pour une raison tout simplement politique. Maintenant, c'est vrai, si on peut garder encore Hong Kong comme l'État il se trouve auparavant, c'est bien. Mais maintenant, pour une raison, pour une logique politique, Pékin a pris cette décision. Je crois que c'est quelque chose d'assez profond, pas simplement concernant Hong Kong, cette cité elle-même, et aussi concernant l'orientation de la Chine elle-même. Concernant aussi la relation que la Chine va avoir ou envisage avoir dans les années à venir. Donc, cela nous emmène, je pense, que très importante pour les Européens de réfléchir quelles relations on veut avoir avec la Chine. J'ai quand même un peu de crainte, hein, de soucis, pas un anti-américanisme traditionnel de gauche et de droite à la française, européenne. Toutes les réactions de la part des Américains ne rencontrent pas des échos de la part des Européens. Hein. Je dois dire une chose que Trump, moi je suis très critique vis-à-vis de Trump, hein, surtout dans ce contexte actuel, vous pouvez imaginer. Hein, l'Amérique est profondément divisée
bien sûr.
Par ce président. Hein. Mais en même temps, Trump, pour l'instant, est l'Amérique, mais l'Amérique n'est pas Trump. Donc, il faut absolument avoir une concertation avec l'Amérique concernant la Chine, en l'occurrence, sur cette affaire de Hong Kong. Je pense que c'est très dangereux. Le message actuel, on est dans un moment historique, tournant. On parle beaucoup de nouvelles guerres froides. Hein. Tout à l'heure, Mme Bell me parlait de nature, de régime. Il faut dire les choses clairement comme elles sont. Et c'est un dictateur. C'est un troisième Reich à l'époque.
C'est toujours délicat de faire le parallèle, M. Zhang, avec le troisième Reich, évidemment.
Non, mais vous savez que beaucoup de mesures, beaucoup de politiques, ils sont en train de mener, ne nous rappellent que toutes ces années noires en Europe. Et c'est là, la similitude, c'est frappante. Et donc, il faut absolument de penser, de réfléchir à ce moment historique. Si on montre l'image hein, de faiblesse, les conséquences après seront catastrophiques.
Oui, parce que...
Donc, c'est là que je souhaite que les Européens soient vraiment clairs. Est-ce qu'on sait ce que se passe à l'intérieur de la Chine? On est en une période très, très dangereuse. Et donc, parce que forcément, Pékin va essayer de jouer le garde de l'Europe face à l'Amérique avec ce jeu, le grand jeu. Et donc, est-ce que les Européens sont bien clairs, hein, bien conscients de tous ces enjeux pour prendre une décision mérite des pays démocratiques.
Stéphanie Balm, puisque M. Zhang vous a interpellé justement sur cette question, qu'est-ce que vous pensez justement de ce qu'on ne comprendrait pas du cœur de la Chine et de ce qui s'y passe véritablement quand on le regarde de l'Europe où on ne voudrait pas comprendre ce qui s'y passe?
Non, nous avons tous les moyens aujourd'hui et depuis fort longtemps de comprendre ce qui se passe en Chine, malgré cette notion de boîte noire dont on parle concernant le système politique chinois. Mais on a assez de politiques publiques sont décidées, assez de données sont publiées, y compris depuis la Chine, pour en avoir, je crois, une idée assez claire. Et utilisons aussi le regard des intellectuels chinois sur leur propre système politique. Et je pense à un en particulier, professeur Xu Zhongrun, qui est un professeur de droit à l'université de Tsinghua, qui a publié un réquisitoire, je crois qu'il a été traduit en français du reste, en 2018, qui essayait de décrire le système politique chinois. Et il disait que c'était un système qu'on pouvait résumer par trois caractères et trois idées. À la fois il était légiste, à la fois il était potentiellement fasciste et à la fois stalinien. Donc ça fait beaucoup de combinaisons, mais qui dessinent quand même un système que monsieur Zhongrun qualifie de totalitaire. Monsieur le professeur Xu expliquait aussi que Xi Jinping, il l'appelle le président de tout, le président de toutes les commissions, le président d'absolument tout. Donc en fait, cette combinaison de légisme, de potentiellement fascisme et de stalinisme est aussi, à la lecture d'un intellectuel chinois, quand même à entendre. Lui a une compréhension de l'intérieur. Et je pourrais aussi utiliser la réflexion d'un autre professeur, le professeur Wu Guoguang, qui a publié très récemment un article sur ce qu'il appelle l'ultra-personnalisation du pouvoir chinois. et que c'est un article qu'il a publié juste au moment du début du Covid en Chine. Et il dit ceci, tout le monde peut comprendre, qu'on soit chinois ou non, qu'on soit expert ou non, qu'il est anormal qu'un 1,5 milliard de personnes, 90 millions de membres du parti, dépendent d'une seule personne, dépendent d'un seul dirigeant. Donc voilà qui dessine, si vous voulez, le modèle politique. Après, dans la deuxième remarque du professeur John Loon qui est avec nous, et sa proposition que les États-Unis et l'Europe réfléchissent ensemble à une politique concertée à l'égard de la Chine, l'idée est très bonne, probablement extraordinairement difficile à mettre en œuvre, en particulier compte tenu de la réalité de la vie politique américaine actuellement. Mmh. Et lorsqu'on sait que l'un des conseillers de Donald Trump sur la Chine n'est autre que Marco Rubio, ce sénateur de Floride qui a établi un agenda bilatéral sino-américain très focalisé sur des questions certes légitimes, hein, le Xinjiang, Hong Kong, les droits de l'homme, etc., et a été le président de la commission conjointe sur la Chine, et désormais le président au Sénat du comité sur le renseignement, porte un regard sur la Chine qui est hérité des républicains qui au 19e siècle parlaient de péril jaune. Donc il y a un regard sur la Chine qui est très spécifique. Je pense pas absolument que ce soit le plus facile d'engager un regard commun européen là-dessus. Je pense qu'il faut qu'il y ait une politique propre européenne sur les questions chinoises.
Sébastien Weig, d'autant que j'imagine que ce mouvement pro-démocratie dont on a parlé au début, parce que évidemment il est au cœur de l'actualité à Hong Kong, est un mouvement qui correspond à beaucoup de mouvements d'aujourd'hui, c'est-à-dire justement pas centralisé, pas représenté par une seule personne. Joshua Hong dans la presse récemment disait, de toute façon le mouvement n'a pas de chef, j'ai 24 ans mais il y a des dizaines de chefs, c'est un mouvement horizontal, dit-il. Ça ne correspond pas du tout à la vision que peut avoir un dirigeant chinois aujourd'hui.
Non, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Même si les commentateurs chinois essayent
à tout prix de trouver
de tracer des parallèles avec la révolution culturelle, mais c'est effectivement ça laisse plutôt sceptique comme tentative. Le mouvement à Hong Kong, je l'ai décrit une fois comme étant à la fois légaliste et utopique. Donc je pense que il a une dimension utopique, mais il a aussi une dimension très légaliste. Alors c'est vrai, comme vous dites, qu'il est complètement décentralisé. Donc le slogan « be water », se comporter comme de l'eau, ne pas se laisser enfermer dans les manifestations, etc. Donc il y a tout ça. Mais il y a aussi le fait que les Hongkongais sont très attachés au fait que... il y a toute l'histoire des négociations sino-britanniques, donc à partir de 1979, la déclaration conjointe donc de 1984 qui a fixé le cadre de la rétrocession, et ensuite la loi fondamentale donc qui dérive de la déclaration conjointe mais qui est un document de droit chinois, donc qui est inscrit dans le cadre constitutionnel chinois. C'est pas un document où les Britanniques ont eu officiellement voix au chapitre, et pour les deux documents, donc la déclaration conjointe et la loi fondamentale, les Hongkongais ont été consultés de façon extrêmement légère et approximative. Il n'y a jamais eu il y a eu des discussions, donc de référendum sur l'un ou l'autre de ces documents. Un référendum sur la loi fondamentale, ça aurait été peut-être une chose minimale à proposer aux Hongkongais. Mais les Chinois ont toujours voulu, alors ça c'est effectivement une approche que la Chine populaire a souvent, voulu absolument séparer la discussion avec les Britanniques de la discussion avec les Hongkongais. Donc ils ont traité la déclaration conjointe dans le cadre diplomatique avec les Britanniques. Et la loi fondamentale, donc, avec certains représentants de Hong Kong soigneusement choisis par Pékin, pour dire que la société hongkongaise avait eu voix au chapitre. Donc dans tout ça, les garanties données dans ces documents sont déjà pas extraordinaires. Et le fait que même ces garanties, même ces processus un peu formels, passés par un voie au Conseil législatif de Hong Kong, où les démocrates ne peuvent jamais, les démocrates ne disposent que de 40 sièges élus au suffrage universel direct sur 70, donc dans lesquels ils peuvent vraiment être compétitifs.
Ça pourrait changer avec les élections de l'année prochaine si elles ont lieu. De cette année, si elles ont lieu, en septembre.
Donc là, on est dans une situation effectivement inédite parce que la colère est telle qu'on envisage pour la première fois qu'avec ces 40 sièges élus et les autres sièges qui donc où il y a aussi certains sièges plus compétitifs que d'autres, les démocrates pourraient arriver presque à avoir une majorité au Conseil législatif. Mmh. Mais donc pour revenir à ce que je disais, que Pékin n'arrive pas à se plier même à ses propres règles. Donc les règles qui ont été fixées déjà dans une négociation où Pékin avait toutes les cartes en main, ça c'est quelque chose qui très profondément heurte les Hongkongais, mais c'est aussi quelque chose que les autres pays devraient regarder en face. Donc la déclaration conjointe, c'était pas simplement les problèmes de l'histoire, un conflit territorial, etc. C'était quand même aussi 5 ans après que les États-Unis ont déreconnu la République de Chine à Taïwan et reconnu Pékin. Mm. C'était quand même le retour de Pékin dans le giron des puissances respectables qui jouent le jeu du droit international. Mm. Et si cette déclaration conjointe est aujourd'hui déchirée, ça a quand même des conséquences sur le respect par la Chine des traités et sur sa place dans le système international.
Monsieur Lunzhang, ce que vous imaginez, après avoir dit que Hong Kong était déjà mort l'année dernière, disiez-vous, c'est que l'activisme du gouvernement de Pékin ces temps-ci dénote non pas une force, comme on pourrait le croire, et c'est souvent ce que l'on croit en Occident. On dit voilà, la Chine va sortir vainqueur du combat contre le coronavirus, plus puissante, plus agressive, etc. Mais plutôt une faiblesse, dites-vous.
Je pense que peut-être ça lie à cette question tout à l'heure. Comment on comprend de la Chine actuelle, hein? Il y a plein de messages, d'images paradoxales. D'un côté, c'est une Chine très puissante, agressive. Donc, beaucoup de gens pensent qu'elle va prendre le leadership
mondial.
Voilà. Mais en même temps, il faut savoir, c'est une Chine absolument faible. Hein. C'est pour cette raison, maintenant, le gouvernement menait une politique très répressive, très vis-à-vis de peu de signes de contestation, de critique. Et donc, je reviens à cette question, comment on comprend de la Chine aujourd'hui? Bon, je profite de cette occasion peut-être pour annoncer une nouvelle, que récemment je crée une site intellectuel en chinois pour ceux, mes collègues et aussi ceux, lecteurs qui savent lire un peu le chinois, qui peut lire, ça s'appelle la Chine, hein, l'histoire future, dans lequel que je viens de publier un article de professeur Xu, madame...
Dont parlait Stéphanie Balme tout à l'heure.
Voilà, ouais. Voilà, il y a un texte très puissant de critique il y a quelques jours. D'ailleurs, professeur Wu Guang, c'est un ami de longue date, il est membre de comité dont je suis responsable de rédacteur en chef. Donc, pour dire qu'une chose, d'un côté la Chine, c'est vrai qu'on connaît des choses, qu'on connaît beaucoup de choses, mais en même temps, le temps est venu. Il faut qu'on essaie de savoir, d'apprendre plus de choses en détail, parce que quelque chose de primordial. Regardez cette histoire de COVID-19. Mm-hmm. Au mois de février, Je tends un mail que je m'adresse à une collègue qui venait de voir madame, l'ancien ministre de Santé, en sortant de son bureau. Elle m'a informé de la rencontre. Je lui ai dit, envoyez tout de suite un mail. Je dis qu'elle a absolument fait passer le message que croyez pas ce que disent le gouvernement chinois. Mm-hmm. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on se rend compte à quel point c'est catastrophique si on croyait ce que disent le gouvernement chinois. OK? Donc, voilà, Madame Balme, l'année dernière, on était ensemble dans un forum à Lyon sur l'économie chinoise. J'ai eu un débat avec quelques économistes éminents français. Je dis, croyez pas les chiffres publiés par le gouvernement chinois sur le GDP et tout ce genre de choses. Et maintenant, c'est pas moi qui les dis. Et même le gouvernement chinois a avoué que dans les années passées, plein de chiffres sont complètement déformés, complètement inventés. Et donc, Là, je dis que d'un côté, il faut qu'on sache, il faut qu'on comprenne, c'est une dictature, c'est un pouvoir en train de changer de manière un peu radicale. Mais en même temps, il faut qu'on essaie de faire des efforts de connaître plus en détail, parce que c'est quelque chose, ce COVID-19 montre très bien. La Chine, ce n'est plus un pays lointain, hein, géopolitiquement parlant. Les Européennes, peut-être parfois moins sensibles, la Chine est un pays lointain, pas comme les Américaines. Mais quand même, la Chine, maintenant, est présente, très, très importante. Il faut savoir ce que se passe concrètement, de manière plus fine possible, ce que se passe à l'intérieur de la Chine, parce que dans les années à venir, il y aura des surprises, il y aura des choses, peut-être nous surprendre encore. Il faut qu'on y prépare.
Stéphanie Balme, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que sous le couvert disons, d'une normalisation aux normes internationales, pourrait-on dire, de la connaissance de la Chine, que ce soit des normes économiques, des normes techniques, etc., il y aurait une Chine souterraine qu'on ne connaîtrait pas et qui serait beaucoup plus discrète que ce que nous croyons? Stéphanie Balme, vous m'entendez?
Oui, non, je. Oui, je vous entends
Oui,
bien. Vous
allez-y.
m'entendez?
Oui, je vous entends bien. Allez-y.
Très, très, très bien.
Bon.
Alors, je pense que ce que je retiens du collègue Zhang Lun, c'est qu'en fait, le système politique chinois est à la fois sa principale force et sa principale faiblesse. Vu de Chine, le reste du monde fait preuve de beaucoup de faiblesses également. Imaginez en ce moment le JT à Pékin à 20h se régale des images de ce qui se passe aux États-Unis.
J'imagine.
Donc il faut aussi garder ça en tête. Ce qui est très important aussi, je crois, c'est de noter que certes il ne faut jamais sous-estimer les faiblesses de cette et les problèmes de gouvernabilité que pose un pays à l'échelle de la Chine en termes de population, en termes de politique publique, en termes, etc. Bon, il reste que la Chine a des ambitions d'hyperpuissance à tous les niveaux et probablement va se donner les moyens de cette hyperpuissance. Elle a aussi elle possède une force de discours, c'est-à-dire une
De
capacité
soft power.
de soft power très fort, qu'elle est probablement, enfin, la question du Covid va être un vrai test pour la Chine. Est-elle en train de perdre dans le domaine du soft power, en tout cas dans le monde qui est le nôtre, qui est le monde occidental? Probablement oui. Dans le monde des pays de la route de la soie, c'est encore complètement à investiguer. Mais elle a la capacité de proposer une alternative au monde occidental tel qu'il existe depuis 45.
Merci.
Et cette l'absence d'alternative en face va probablement faire aussi que la Chine peut obtenir ce qu'elle souhaite.
Et bien sûr, nous sommes dans un monde interconnecté et tout dépend de tout, évidemment, des élections américaines, de la révolte effectivement dans les villes américaines ces temps-ci, et puis peut-être aussi de la capacité de l'Europe à avoir une voix unique autour de cette question de ce qui se passe en Chine et dans les pays voisins. Merci à tous les trois. Merci à vous, Monsieur Lunzhang, d'avoir été avec nous. Donc depuis Harvard, merci à vous, Stéphanie Balme. Je rappelle que vous êtes professeur et directrice de recherche à Sciences Po, et à vous, Sébastien Weck, vous êtes historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la Chine, et particulièrement là, on a parlé beaucoup de Hong Kong avec vous, c'était l'actualité. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Antoine Tricot, Manon Prissé, Fanny Richer, Rémi Baille et Hugo Boursier. À la technique aujourd'hui, Nasser Moussaoui. À la réalisation, Olivier Bétard. Demain, nous nous poserons une autre question. Peut-on retrouver le sens de la fête au moment du déconfinement? Peut-on retrouver le sens de la fête? Et puis, je vous conseille d'aller sur le site de France Culture où continue la conversation mondiale lancée par l'équipe du temps du débat. Des textes inédits que nous publions tous les jours. Hier, Vivir Quintana, un très beau texte d'une féministe chanteuse mexicaine. On sait combien le Mexique est touché durablement par la question du Covid. Et aujourd'hui, l'historienne australienne Elisabeth Rechniewski.